La prochaine thématique concerne l'emploi. Et donc, de manière générale, les questions d'emploi sont très importantes. Et elles le sont encore d'autant plus quand, à la suite d'un accident ou d'une maladie, le retour à l'emploi antérieur n'est plus possible ou très difficile. Se pose alors la question de la réorientation, de l'utilité sociale, de la survie économique. Comment retrouver une place dans une société où le système économique est de plus en plus compétitif et individualiste? Quelle place peut être laissée aux personnes handicapées dans un tel environnement de travail? Il nous semblait intéressant d'avoir une réflexion plus générale sur ces questions de travail dans une société en pleine mutation, raison pour laquelle nous avons invité M. De Fourny. Il est docteur en sciences économiques et diplômé de la Cornell University aux États-Unis. Après avoir consacré sa thèse aux coopératives de travailleurs, il a élargi son champ de recherche à l'ensemble de l'économie sociale dès la fin des années 80. Ses nombreux travaux ont contribué à accréditer l'économie sociale, mettant notamment en évidence l'importance économique des ASBL. Il est professeur à l'HEC, l'école de gestion de l'Université de Liège, et il dirige le Centre d'économie sociale qu'il a fondé au début des années 90 et qui est aujourd'hui un pôle scientifique internationalement reconnu. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages et d'articles scientifiques. Je vous propose d'écouter sa présentation. Quels modèles économiques pour redonner du sens au travail? Monsieur De Fourny, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous et à toutes, et merci à Ressort de m'avoir invité à venir dans ce champ où, je vous préviens, je n'ai aucune compétence. En tout cas, sur la cérébrolésion, pour moi, ce n'est pas une inconnue totale, mais tout de même, je ne me sens pas du tout de plein pied par le champ lui-même. Par contre, parce que votre travail, pour la plupart, s'inscrit dans des cadres associatifs ou parapublics, dans le non-marchand, je crois que j'ai le droit de vous proposer quelques réflexions pour élargir l'analyse et peut-être trouver des ponts entre ce que nous faisons au Centre d'économie sociale et dans ce réseau international, entre ces travaux et ce que vous vivez, ce sur quoi vous travaillez. J'ai d'abord essayé de vous montrer que l'économie sociale a toujours été perçue et construite comme une autre économie. L'orateur précédent a montré combien le capitalisme pouvait être brutal, pouvait être inégalitaire. On va voir ce qu'il en est avec l'économie sociale comme réponse partielle, bien sûr, à cette brutalité du capitalisme. Et puis, puisque le thème de votre journée est quand même largement centré sur le travail, pas seulement, mais tout de même, j'essaierai de vous montrer quelques-uns des travaux qu'on a faits au niveau international sur ce qu'on appelle les entreprises sociales d'insertion par le travail. Et puis, si on a le temps, j'espère vous montrer comment aujourd'hui se développe partout sur la planète un intérêt croissant et surtout des initiatives de plus en plus nombreuses de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Et j'essaierai de vous donner quelques pistes pour s'y retrouver dans ce qui est aussi un lieu de confusion terminologique. Entrepreneurs sociaux, social business, il y a là-dedans des termes qui font peur. Il y a peut-être moyen d'apprivoiser ce champ. Et en conclusion, quelques réflexions macroéconomiques pour voir si ce qu'on vient ou ce qu'on va évoquer est enfermé dans un coin ou peut vraiment rayonner et apporter quelque chose à l'échelle macroéconomique. L'économie sociale est née au XIXe siècle pendant des mutations d'un capitalisme de plus en plus brutal. Je ne vais pas passer mon temps à vous donner des exemples. Pensez, à Germinal, le film Dance, pour se représenter la violence des rapports sociaux et des rapports économiques de l'époque. Et dans cette brutalité, dans ce contexte terriblement violent, des citoyens, surtout des paysans et des ouvriers, tentent d'inventer autre chose. Et c'est peut-être intéressant, moi j'aime beaucoup les perspectives historiques parce que ça évite de réinventer la roue, ça évite de se prendre complètement au sérieux en se disant on est les premiers à penser ça. En fait, la lutte contre les excès du capitalisme, elle ne date pas d'hier. Et au fond, trois grandes familles d'initiatives, trois grandes traditions se sont affirmées pour forger ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième secteur de l'économie sociale. Un secteur d'origine privée, mais à finalité sociale ou sociétale. Et donc avec des parentés avec le secteur public qui a normalement pour but de promouvoir le bien commun, mais aussi des parentés avec le secteur privé, parce qu'on y trouve là de la flexibilité, du dynamisme, de l'entrepreneuriat, du sens du risque, une volonté de trouver des ressources, etc. La tradition coopérative, je ne vais pas être très long là-dessus, c'est de dire on reste sur le marché, parce que le marché, ce n'est pas tout le capitalisme. Le marché, c'est un mode d'allocation des ressources qui, à bien des égards, est performant. Le marché, ça a été historiquement le doux commerce, comme disait Montesquieu, pour échapper à l'occupation des hommes qui, sans ça, ne pensaient qu'à se faire la guerre ou à aller violer les femmes des autres. Et le commerce, le marché, en tant que tel, ce n'est pas un mal en soi. Tout dépend de la manière dont on l'utilise. Des hommes, des femmes ont créé des coopératives pour acheter, comme aujourd'hui, des groupements d'achat en commun, des coopératives agricoles. C'est très actuel devant les scandales que nous vivons. Des paysans, des agriculteurs, des éleveurs veulent se réapproprier des filières pour essayer de mieux contrôler l'aval de leur production, la mise sur le marché, les contrôles sans doute aussi. Et ils se mettaient ensemble pour acheter également des équipements, des matières premières. C'est la tradition coopérative. Il y a 1 milliard de personnes sur la Terre qui sont membres d'une coopérative. C'est peut-être le plus grand mouvement social qui ait jamais existé et qui ait tenu pratiquement 200 ans à travers toutes les guerres, à travers toutes les dictatures. Les citoyens associés pour de la production économique dans l'intérêt mutuel des membres, c'est quelque chose d'étonnamment moderne, puis qui passe et puis qui revient, parce que c'est un besoin tellement important. Mais je suis trop long, je pourrais faire un cours sur cette slide. La tradition mutualiste, c'est de dire on sort des voies du marché, ce qui est nécessaire pour avoir accès en particulier à la santé et aux médicaments, aux soins de santé et aux médicaments. Et on va cotiser dans un pot commun chaque semaine, dès le premier tiers du 19e siècle, des pères de famille mettent en commun quelques sous de leur rémunération pour que le jour où un père de famille, c'est d'abord autour du travail, le jour où un père de famille tombe malade, il peut se payer le médecin et les médicaments. Et de nouveau, c'est l'intérêt mutuel des membres, mais dans une forme de solidarité qui prime. Et on invente là la tradition mutualiste, qui en Belgique a fait florès et est une des plus importantes. Mais il y aurait aussi là beaucoup de choses à dire. Et puis, sur la fin du 19e siècle, la tradition associative naît. Curieusement, après les deux autres, alors que pour nous, les ASBL, ça fleurit partout, on a l'impression que ça existait depuis si longtemps, eh bien, l'association, la vie associative, c'est ce qui fait le plus peur au pouvoir dominant. Demandez à Poutine s'il aime beaucoup la vie associative, pour autant que ce soit contrôlé par le régime, oui, mais lorsque les gens ne pensent pas accéder aux soins de santé et à faire du commerce, ils pourraient commencer à discuter de l'action publique, de l'impartialité des pouvoirs publics, bref, de tous les maux de la société, et ça, c'est toujours suspect. Si bien que la liberté d'association a été proclamée en France en 1901 et en Belgique en 1921. C'était dans la Constitution belge, mais personne n'avait passé de loi pour la mettre vraiment en œuvre. Donc l'associatif, le creuset véritable de nos démocraties, parce que la liberté de s'associer, quand on y touche, c'est la démocratie qui tremble tout de suite. Mais je vais être plus rapide sur le reste. Avec tout ça, qu'est-ce que ça donne? Si on saute 150 ans, quelque chose comme ça, on retrouve une économie sociale qui est faite de trois grandes composantes. Les coopératives, les mutualités, et j'ai ajouté les fondations d'utilité publique qui deviennent de plus en plus nombreuses aujourd'hui, mais surtout en Belgique, à 90% pour ce qui est de l'emploi, les fameuses ASBL, que Kuhn-Gienz voudrait bien réformer le droit, et là il y a des dangers majeurs, mais ce n'est pas le sujet de mon exposé. Vous voyez que l'action sociale, les services médico-sociaux, la santé au sens strict, tout ça est bien là, parce que dans ces champs, même si les pouvoirs publics ont prévu beaucoup de choses, l'action associative, l'orateur précédent l'a bien montré, c'est évidemment essentiel et ça a pris pas mal de place dans nos paysages socio-économiques. Et en vert à gauche, vous voyez ce qui est spécifique à l'insertion par le travail avec ces expressions typiquement wallonnes ou bruxelloises, entreprise d'insertion, entreprise de travail adapté, entreprise de formation par le travail. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais ces associations, est-ce que c'est de la vraie économie? Est-ce que ce n'est pas, vous savez, ces activités bienvenues, mais où il y a beaucoup de bénévoles, où on n'a pas la pression du marché, où tout compte fait, c'est une économie qu'on peut se permettre quand la vraie économie paye bien ses impôts. Et donc, ce serait le luxe que se permet la société lorsque les recettes fiscales rentrent normalement, que tout le monde, citoyen, entreprise, paye bien ses impôts. Et donc, lorsque la démocratie fonctionne bien, on mettrait de l'argent de côté pour payer des travailleurs dans le non-marchand. Vous et moi, nous sommes dans le non-marchand. Et surtout, dans l'opinion publique, l'orateur précédent, une fois de plus, disait sur 2 heures en voiture, je me rappelle plus s'il était en voiture, je n'entends parler que d'économie. Et c'est vrai, la vraie économie n'arrête pas de faire parler d'elle. Si vous écoutez vers 19h, on vous donne même les sentiments du jour des marchés. Les marchés sont fâchés, les marchés ont peur, les marchés se ruent sur, les marchés attrapent froid. Enfin bref, les marchés, on dirait que ce sont des vivants plus importants que les autres. Mais néanmoins, est-ce que les ASBL, est-ce que les champs qui nous intéressent ont à voir avec la vraie économie? Eh bien, les associations, quelles qu'elles soient, je ne parle pas de l'ASBL ou l'association de fête de joueurs de bridge qui sont à 5-6, non, je parle quand même des ASBL structurés, ce sont au fond des organisations qui mobilisent des facteurs de production. Des facteurs de production, c'est le travail, le capital, la terre. Et vous savez bien que dans vos organisations ou dans les organisations partenaires, il y a beaucoup de travailleurs. J'ai mis des centaines de milliers de travailleurs pour les associations en Belgique au sens large. 12% de l'emploi total, oui, est dans les ASBL. Donc, ce n'est pas un petit acteur économique. Et le capital, que d'infrastructures, dans les structures hospitalières et autres, bien sûr, dans l'immobilier, les machines, bref. Les associations mobilisent, comme les entreprises, des facteurs de production. Et une entreprise produit aussi. Mais au fond, vous aussi, enfin permettez-moi le raccourci, comme ça je n'ai pas besoin de faire le tri, toutes ces ASBL dans le champ du handicap, des cérébro-lésions, que sais-je, produisent des biens et des services, soit à domicile, que sais-je, animation sportive, parce que je suis sur l'ensemble de l'associatif, insertion professionnelle, en vue de répondre, comme les entreprises qui cherchent à répondre à des besoins, en vue de répondre à des besoins d'une multitude de personnes, car il y a beaucoup de personnes sur le côté de la route, dans le fossé même, et pour lesquelles il y a des besoins essentiels, notamment les plus fragilisés. Donc, alors que l'opinion publique a tendance à dire les ASBL, c'est pas la vraie économie, là on retrouve toutes les caractéristiques d'une entreprise. Mais les entreprises classiques, elles vendent des biens et des services sur le marché et à des gens, à des personnes physiques ou morales qui sont solvables. Ah là, ce sont deux aspects qu'on ne retrouve guère dans les associations, parce que la demande est en général non solvable, surtout chez les plus fragilisés. Il peut y avoir quelques moyens financiers, mais en gros, on n'est pas capable de payer seul tout le coût d'un accompagnement, que sais-je. Et donc, puisque il n'y a pas une demande solvable sur le marché, il y a financement public. Je raconte des choses très élémentaires, mais vous savez, subside public, financement public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collectivité, dans sa grande sagesse, a estimé que certains services doivent être délivrés hors des voies du marché, en dehors des lois du marché, parce que celles-ci conduiraient à la satisfaction des besoins de ceux qui ont le plus de moyens. Et dans le non-marchand, on n'a que cette partie de biens et services dont la collectivité tout entière, dans sa grande sagesse démocratique, dit « ça, ces biens-là, ces services-là, dans l'éducation, la santé, la protection, etc. » C'est tellement important qu'il faut que la puissance publique fasse un achat commun pour toute la communauté, et donc les champs qui nous occupent, qui vous occupent, sont des champs jugés tellement importants que, contrairement à l'Apple numéro 9 ou 10, on les soustrait des lois du marché. Parce que l'Apple peut être tout fascinant, on peut vivre sans un Mac. Mais vivre dans une société globale sans prendre soin des personnes les plus fragilisées, sans en tout cas donner la garantie à l'ensemble de la communauté que si jamais certaines personnes se trouvaient dans ces situations-là, elles ne seraient pas jetées par-dessus bord, eh bien ça, c'est répondre à un besoin fondamental et donc qui me conduit à dire le non-marchand, c'est peut-être la sphère des biens et services les plus nobles, car même les Rolls-Royce, les Mercedes, les Audi ne sont pas jugés dignes, malgré leur beauté, si ça vous intéresse, ne sont pas jugés dignes d'être hors marché. Seul est hors marché ce qui est fondamental pour l'épanouissement humain, voire la survie humaine. Donc, nous serions tous ici dans la partie la plus noble de l'économie. Est-ce qu'on se le dit suffisamment ? Est-ce que ça n'anoblit pas un petit peu nos carrières, nos épuisements, notre travail, quand on se dit, tout compte fait, on a l'honneur de servir le bien commun. On a l'honneur d'avoir été choisi par la collectivité pour produire, au bénéfice de tous, potentiellement, des services tout à fait essentiels. Ça change la donne de se dire ça, et de ne pas juste prendre le micro-trottoir qui dit « Oui, le non-marchand, ça coûte cher quand même, plus les infirmières, elles sont souvent dans la rue, etc. etc. » Non, nous sommes dans cette partie-là. Même si aujourd'hui, les financements publics, les achats groupés du gouvernement sont de plus en plus restreints, je ne veux certainement pas dorer la pilule, tous les secteurs non-marchands subissent certaines contractions. Et on passe à des subsides qui deviennent des contrats, évaluations, tout ce qu'on veut, et parfois recherche d'autres ressources. Voilà, ça je vous l'ai dit. Répondre à des demandes sociétales et par là même être avocat, pas seulement prestataire, avocat du bien commun. Ce qui manque le plus dans nos sociétés pour le moment, dans ce contexte d'individualisation à outrance, de consommation en permanence, promu, même pour des besoins qui n'existaient pas hier, mais où on met des ressources folles pour faire croire aux gens que sans ce bien-là, ils seront plus malheureux. Eh bien, dans ce contexte-là, que des travailleurs, que des bénévoles, par leurs actions, se fassent avocats du bien commun. Ça, je pense que ce sont des voies particulièrement porteuses aujourd'hui. Mais est-ce que c'est rentable, tout ça, l'associatif ? D'accord, ça produit des bonnes choses. Mais est-ce que c'est vraiment sérieux en termes de rentabilité ? Parce qu'il faut quand même que ce soit rentable si on met de l'argent quelque part. Ben dans les entreprises conventionnelles, ce sont les propriétaires qui recherchent la rentabilité, hein, le rendement de leur placement sous forme de dividendes ou sous forme de plus-value des actions qu'ils peuvent revendre avec une plus-value. Donc, une entreprise conventionnelle est obligée d'une manière ou d'une autre, je fais tout un cours par ailleurs là-dessus, de maximiser le profit, ou de viser en tout cas à moyen terme la maximisation du profit. Dans les associations, il n'y a pas encore d'actionnaires. J'espère que M. Gaines ne va pas nous introduire des actionnaires dans l'associatif. Ce serait dangereux, puisque, en général, quand on met du capital privé, ce n'est pas pour de la philanthropie, c'est pour de la rentabilité. Mais il y a un autre type de performance dans les associations. Il y a et ça, ça vaut très bien pour votre secteur, c'était redit tout à l'heure, un impact direct sur le bien-être du bénéficiaire, du patient, de l'usager, un impact sur son entourage, sa communauté, et un impact sur la société, parce que, là je ne vais pas m'éterniser, vous savez bien mieux que moi, combien on peut prévenir, combien on peut réduire les coûts quand on s'y prend correctement pour certains services, malgré toutes les difficultés qu'il faut surmonter. Et donc, en conclusion de cette première partie, les associations, ce sont bien des entreprises, mais les Flamands disent à profit social, et l'UNIPSO a repris aussi, le terme. Moi, je ne suis pas un fan de ce profit social, mais bon, c'est le terrain qui décide. Des entreprises à profit social et à performance sociale et sociétale. Voyons maintenant, si vous voulez, rétrécissons un peu le spot. J'ai parlé de l'ensemble de l'économie sociale, puis focus énorme sur tout le champ associatif. Quid dans l'économie sociale à propos de la lutte pour la réintégration professionnelle de personnes qui ont du mal à trouver leur place sur le marché du travail conventionnel. Il y a déjà plus de 10 ans, on avait fait une étude avec notamment Marc Nissens de Louvain-la-Neuve et le réseau MS sur un mapping, une sorte de cartographie de tous les modèles d'entreprises sociales, d'associations la plupart du temps, parfois de coopératives, qui visent la réintégration de personnes en difficulté. Et on avait répertorié toute une série de modèles dans une dizaine de pays. Et vous voyez qu'on retrouve quelques réalités belges. Oh, mais je vais d'abord mettre les mots là-dessus. Dans le cercle, ou plutôt dans l'ovale du dessus, la modalité d'insertion, c'est d'offrir une formation par le travail. Des jobs de transition qui permettent, comme dans un sas, de sortir avec un peu plus de qualification, un peu plus d'aptitude pour aller vers le travail. Ça ne veut pas dire le marché du travail tout de suite classique. Hein. Mais j'ai pris... Oh là, pardon. Oups, ça c'est dangereux quand on... J'ai mis les EFT ici, puisque c'est un peu l'incarnation de la formation par le travail. Les petits B veulent dire Belgique. Et puis les autres, je vous passe les détails, c'est dans tous les autres pays. Et vous voyez que les entreprises d'insertion wallonnes et les Inwoordbedrijven flamandes sont, elles, visent la création d'emplois permanents qui, par la vente de services, de biens, visent à créer des emplois pérennes pour les personnes en difficulté. Mais il en va de même aussi, dans une autre mesure, des ETA, bien sûr, des Beschutte-Werkplätze ou des Sozialwerkplätze, qui mériteraient peut-être d'être là. Et là, on est dans une autre problématique. Certes, il y a pas mal d'activités sur le marché, notamment avec les ETA, qui aujourd'hui vont chercher presque plus de 50% de leurs ressources sur le marché, mais elles ont pas mal de subsides aussi pour compenser les frais d'encadrement, etc., d'adaptation, que sais-je. Et ici, j'ai mis un type d'organisation française qui avait été identifié par nos collègues français, les centres d'adaptation à la vie active, mais j'aurais dû mettre aussi les ESAT, dont vous aurez tout à l'heure la narration d'une expérience en France, les établissements et services d'aide par le travail, où là, si je ne me trompe, il s'agit de resocialiser par une activité productive, mais pas d'être ni autosuffisant, ni extrêmement performant sur le marché du travail. Il s'agit plutôt, en tout cas pour les CAVA, d'une resocialisation. Donc vous voyez que l'insertion par le travail, et je ne sais pas s'il y a place là-dedans, en tout cas à l'époque on ne travaillait pas sur la cérébrolésion, donc je ne saurais pas vous dire s'il y a là-dedans des structures accueillant des cérébrolésés, mais... en tout cas, on est dans le champ, dans le vaste champ de la réinsertion par le travail pour des personnes en difficulté. Ces modèles, je vais tout de suite les mettre, eh bien, ils se financent de manière plurielle. Regardez, vous avez les ETA et les Beschutte-Werkplätze qui vont chercher pas mal de ressources marchandes, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont absolument pas de ressources non marchandes. Hein. Seules celles-ci, par exemple, sont vraiment totalement marchandes. Vous avez les EFT qui, elles, sont pour l'essentiel non marchandes, c'est des subsides publics. Et puis, vous avez des tas de modèles, j'ai pas le temps. Vous connaissez peut-être la fameuse ONCE, les aveugles espagnols, avec leur énorme tombola qui est la principale loterie en Espagne. Et on pourrait raconter beaucoup de choses sur chacun des autres exemples. Ce n'est pas mon propos ici. Vous voyez que les modèles, ce serait ça qu'il faudrait retenir, les modèles reposent peu ou prou sur des ressources non marchandes, principalement des subsides, des ressources marchandes quand on peut vendre un produit ou des services, fût-ce à des prix en dessous d'un prix de marché. Mais il y a aussi ce qu'on appelle parfois les ressources réciprocitaires, ou en tout cas privées non marchandes, comme les dons, le volontariat, et on a là des modèles très hybrides. La reconnaissance des hybridations dans les modèles socio-économiques, c'est très important, parce que sur la scène politique, vous avez souvent des gens qui sont convaincus par le secteur marchand, d'autres qui défendent absolument le non-marchand. De plus en plus, qu'on aime cela ou non, on va vers des modèles hybrides. Bien sûr, il faudra bien se battre pour garder des modèles très non-marchands, parce qu'il y a des champs, et peut-être que c'est le cas pour les personnes cérébro-lésées. Il faut absolument se battre pour ce qui ne peut pas du tout être marchand, mais il y a une évolution, dont je reparlerai tout à l'heure, vers de l'entrepreneuriat social qui, bien souvent, essaye d'aller chercher certaines ressources supplémentaires, souvent en gardant le même but. Ici, je reprends la diade tout à l'heure, mais en mettant ceci en évidence. La colonne de gauche. Oups, voilà. Vous avez ici les activités non marchandes, et j'ai mis très près du complet non marchand les services médico-sociaux, l'action sociale, la santé. Ce qui est le plus sur le marché avec des ressources marchandes, c'est les coopératives, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis vous avez ce vaste espace intermédiaire où, vous le savez bien, on peut plus facilement trouver d'autres types de ressources, par exemple dans la culture ou dans les loisirs, les sports, où on fait payer tout ou partie des frais consentis. L'éducation, la recherche en partie également. C'est évidemment schématique. Mais de nouveau, mon plaidoyer est celui-ci. Surtout, ne restons pas figés sur des dichotomies fortes, marchands, non marchands. Il est utile d'acter qu'aujourd'hui, l'essentiel ou une très large partie du champ de l'économie sociale se trouve quelque part au milieu. Même si, il n'y a évidemment aucune honte à être dans la partie inférieure. Il faut qu'en fonction des besoins, en fonction des prestataires, en fonction des circonstances, on trouve le modèle économique qui convient le mieux. Le titre n'est pas terrible, parce qu'au fond, je vous ai déjà montré que les associations étaient des entreprises sociales. Ce que je voudrais souligner ici, et je dois aller... Oui, je suis à l'aise. Je suis au milieu de mon exposé. Encore un quart d'heure ? Pardon ? Un peu plus vite, d'accord. Je me demande danger de me poser la question au président. Je ne devrais pas. En fait, je ne sais pas si vous êtes frappé par ça, mais c'est un nouveau terme, cette idée d'entreprise sociale et surtout d'entrepreneurs sociaux. Certains d'entre vous ont entendu parler de mouvements pour des entrepreneurs sociaux, d'Ashoka, cette fondation américaine qui cherche des entrepreneurs sociaux individuels, etc. Je me permets de prendre, on va dire 10 minutes, pour vous introduire à cette problématique, en tout cas si elle ne vous est pas familière. Parce que c'est aujourd'hui débattu à l'échelle mondiale. Il y a 20 ans, avec le réseau IMES, on était pratiquement les premiers en Europe à parler de l'émergence des entreprises sociales, de l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, eh bien, je ne veux pas me vanter pour cela, mais on, avec Mark Nissen, on parcourt le monde pour valoriser les travaux qui ont été faits il y a 20 ans, mais surtout pour encourager des chercheurs locaux dans 55 pays et à travers toute la planète, encourager des chercheurs et des enseignants locaux à se former sur cet entrepreneuriat social, car la difficulté des pouvoirs publics à rencontrer l'ensemble des problèmes sociétaux et la non-volonté du marché ou des forts profits des entreprises capitalistes à s'occuper de ce qui ne rapporte pas, eh bien, cela conjugué amène toujours à la même conclusion, il faut que les citoyens associés prennent des initiatives. C'est toute l'histoire de l'économie sociale. Le pouvoir public peut faire beaucoup, mais aujourd'hui, il a des difficultés. Le secteur privé est de plus en plus contrôlé par ceux qui veulent un profit maximum. Je ne parle pas de PME, on y reviendra, enfin, qui peuvent être parfois sociétales. La seule alternative, c'est le film demain, même s'il a un côté bisounours, c'est de regarder tout ce qu'il y a moyen de faire et qui se fait dès aujourd'hui comme invention de nouvelles formules, de nouvelles activités, de nouvelles manières de rencontrer des besoins qui ne sont pas suffisamment ou pas du tout satisfaits. Alors, ça, je vais aller vite. En gros, la notion aux États-Unis, ça veut dire aujourd'hui, ce premier courant, l'entreprise sociale, ce sont des associations qui vont sur le marché et qui abandonnent les subsides, les dons, parce qu'elles vont largement sur le marché. Puis ça s'étend et des boîtes de consultance font beaucoup d'argent en disant à n'importe quelle grande entreprise, vous devriez vous positionner comme entreprise sociale. Si vous engagez 3 personnes handicapées, vous pourrez dire que vous êtes une entreprise sociale. C'est évidemment un peu court. Et puis, il y a l'école de l'innovation sociale, où là, c'est la personnalité de l'individu qui fonde une entreprise qui invente de nouveaux services ou de nouvelles manières de produire. Ceux-là sont très populaires. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. En Europe, on a tendance à, en tout cas, dire les modèles sont très pluriels et l'apport du réseau EMS, c'est notamment de dire c'est un peu facile de se fier juste à un entrepreneur qui rencontre un besoin social. L'idéal, c'est d'avoir une structure de gouvernance qui soit participative parce que équilibrer une activité économique et la rencontre primordiale de besoins essentiels de personnes fragilisées, par exemple, cet équilibre, il n'est pas donné, il est tout le temps à retravailler. Et c'est pour ça que le réseau EMS, qui rassemble maintenant 250 chercheurs à travers le monde, souligne auprès des dirigeants, auprès de tous les publics, combien la gouvernance est importante. Parce qu'il y a une garantie plus solide que l'entreprise reste en ligne avec ses objectifs, c'est ce que je viens d'évoquer, aussi parce qu'il y a plus de potentiel pour de l'innovation sociale. Si on ne table pas juste sur le fondateur, souvent le fondateur, c'est celui qui a l'idée géniale pour commencer, mais après, l'innovation sociale se fait souvent dans des interactions entre différents types d'acteurs. Et puis, une gouvernance participative, ce peut être une garantie pour tous ceux qui financent, que ça vienne du public ou bien que ça vienne de particuliers, les dons, les fondations, etc., pour convaincre les donateurs que la mission sociale reste bien première. Souvent, une gouvernance participative est une garantie, pas magique, mais bienvenue, la plupart du temps. Je passe là-dessus. Je redemande 5-10 minutes. OK, merci. Le temps passe moins vite maintenant. J'ai le temps de vous proposer un schéma qui, je pense, est une boîte pour comprendre un peu cet entrepreneuriat social et ces nouveaux modèles d'entreprise sociale, et qui a l'avantage de ne pas mettre de côté le troisième secteur, l'économie sociale, bien loin du reste de l'économie. En fait, le triangle permet de dire il y a, en bas à droite, l'intérêt du capital, un intérêt capitaliste des entreprises. C'est ici des principes d'intérêt. Là, ce qu'on recherche, c'est l'intérêt de ceux qui amènent les capitaux. Au-dessus, c'est l'État qui est élu, choisi, en place, pour défendre l'intérêt général. Et il y a l'intérêt mutuel dans les coopératives, dans les mutuelles, etc. Mais l'État, bien souvent... Ah oui, pardon. Et donc, ça, ce sont les trois grands pôles d'intérêt. Vous pourriez m'en citer d'autres. Vous pourriez surtout me dire qu'il y a des intérêts que l'on peut combiner. Permettez-moi d'être un peu simpliste. Il y a moyen de voyager sur le long des côtés du triangle. Mais ce qui m'importe, c'est de combiner ces trois moteurs de l'activité économique. Trois moteurs qui sont en nous. Hein. Pour certaines choses, nous sommes dans un intérêt peut-être mutuel, en interagissant avec des collègues, que sais-je. Parfois, on est dans un intérêt général parce qu'on passe notre temps à aider un public qui n'est pas membre de la structure mais bénéficiaire, et parfois on place son argent, pas nécessairement de manière hyper spéculative, mais où c'est l'intérêt d'un capital qui importe. On n'est pas ici dans la famille des grands milliardaires. Les lignes en pointillés disent les zones où on a au-dessus des ressources publiques dominantes, en dessous le marché et ses ressources particulières, et au milieu des formules hybrides. Les entreprises à but lucratif, faciles à localiser, elles visent, pour faire bref, un intérêt du capital, un intérêt capitaliste. L'État, lui, je l'ai dit, est l'acteur par excellence de l'intérêt général, mais dans nos sociétés occidentales, l'État a sous-traité la poursuite du bien commun à beaucoup de structures associatives. Nous sommes quasiment le pays où il y a le plus d'associations sans but lucratif, parce que cette formule a permis beaucoup de choses, et notamment à l'État de déléguer la prestation de services publics qui, dans certains pays, reste sous la coupe stricte de l'État. Et puis, il y a l'intérêt mutuel qui guide les associations où on vise l'activité, la mise en place d'une activité de loisirs, de défense des droits des personnes, une association de logopèdes, de thérapeutes qui défendent leur métier, etc. Là, on est dans l'intérêt mutuel. Et les coopératives, fondamentalement, c'est aussi de l'intérêt mutuel. Là, de nouveau, j'insiste, on a énuméré, localisé les grands dynamiques, les motivations profondes. Je pense qu'on peut dire qu'on est là dans ce que les Anglais appellent les driving forces, ce qui meut pour se lancer dans une activité économique. Et à partir de là, il y a des logiques d'action qui se déploient un peu partout dans le paysage économique, parce qu'on a toute l'économie, là, le privé, l'étatique et l'associatif, et des dynamiques créent des modèles d'entreprise sociale. Il manque un M là dans le coin. C'est par exemple les associations d'intérêt général qui vont aller chercher un petit peu plus de ressources marchandes, tout en se professionnalisant. Je ne dis pas qu'elles s'éloignent complètement, je ne dis pas qu'elles viennent ici, mais que d'associations qui cherchent à compléter les subsides qui manquent par quelques activités marchandes, parfois qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité principale. Ça va de la fancifère jusqu'à des opérations de collecte d'objets qu'on va revendre. Les associations d'intérêt mutuel vont parfois par là aussi, mais c'est un peu moins courant. Oups, attendez. Un autre modèle, ah oui, j'avais mis AE, je crois, association entrepreneuriale. C'était le premier modèle d'entreprise sociale. Vous avez de plus en plus, et c'est vrai dans une multitude de pays, ça a commencé en Italie en 80, où on a inventé une nouvelle famille coopérative. Avant, c'était, je l'ai dit assez, des membres qui cherchent leur intérêt, épargne crédit, achat en commun de biens alimentaires, pharmacie coopérative, que sais-je. Ici, on a inventé un nouveau type de coopérative où les coopérateurs s'occupent de l'intérêt, de la satisfaction de besoins de la communauté dans son ensemble. Et grâce à cela, par le fait que les coopératives gardent certainement une visée sur l'intérêt des membres, mais en plus se battent pour l'intérêt global, l'intérêt général. Ça peut être une petite association de quartier qui défend trois arbres, puis qui évolue comme une association défendant l'environnement très largement. On a cela de plus en plus dans le monde coopératif, et on appelle ça des social, j'aurais dû mettre CS, coopératives sociales, combinant un intérêt mutuel et un intérêt général. Dans le monde capitaliste, notamment c'est très riche, ces personnes qui deviennent très riches très rapidement, aujourd'hui on a les moyens pour faire cela, au lieu de s'arrêter, au lieu de s'arrêter à la simple responsabilité sociale de l'entreprise, le mot-clé est un peu déjà daté des grandes entreprises pour dire, vous savez, on se préoccupe quand même du bien-être de l'ensemble de la collectivité. La preuve, on a engagé cette année 3 personnes handicapées sur 500 travailleurs. La RSE, ça sert souvent quand même un peu beaucoup de vitrines sociétales. Beaucoup de politiques de responsabilité sociale sont des window dressings. C'est vraiment la vitrine par laquelle on essaye de convaincre qu'on n'est pas tout à fait aux mains de ses actionnaires japonais et autres. Et, mais si on dépasse la RSE et que, par exemple, une grande entreprise, mais surtout une fondation largement autonome, je ne dis pas totalement, mais dont le but, elle, est de rencontrer des besoins sociaux ou sociétaux en finançant des SBL, en finançant des actions, en mettant sur pied elle-même des actions, on a le modèle du social business. Et c'est seulement pour cela que nous, nous parlons de social business. Et puis enfin, dernier modèle, c'est l'État qui de plus en plus essaye, prend conscience de certaines de ses limites. Je ne suis pas en train de critiquer l'État, mais dans, le, dans les tendances inhérentes au secteur étatique, il y a cette conscience qu'on n'a plus assez de ressources, que pour certaines choses, l'État n'est pas vraiment doué. La gestion de l'entreprise, la création d'entreprise, ce n'est pas vraiment son truc. Et donc l'État délègue et même parfois pilote et puis lâche du lest auprès d'une entreprise sociale parapublique. Alors, je n'ai pas envie de prendre les exemples des intercommunales, parce que c'est des, d'abord c'est très ancien, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Mais fondamentalement, il pourrait s'agir de ça. Et peut-être même qu'il s'agissait un peu de ça déjà il y a 30-40 ans. Je suis dans les temps. Et au total, ça vous donne ceci. Et une leçon assez générale. C'est un peu comme si, tout en gardant, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tout en gardant un fort secteur associatif d'intérêt mutuel, un fort secteur coopératif, évidemment un secteur privé qui reste dominant, évidemment un État qu'il faut défendre dans ses formes actuelles, il y a dans la société, parce qu'il y a des besoins sociaux et sociétaux mal ou pas rencontrés, une sorte de prise de conscience progressive, et je ne suis pas angélique en disant ça, dans l'ensemble, parmi l'ensemble des acteurs qui se disent « faisons un pas vers le haut », c'est-à-dire vers un peu plus d'intérêt général. Ici, j'ai mis une PME parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde là. Un couple qui ouvre un magasin de commerce équitable pour gagner sa vie correctement, mais vous voyez bien que l'activité elle-même est d'ordre d'intérêt général. Et donc, il y a ici, évidemment, tout un spectre, une continuité entre un intérêt non capitaliste d'intérêt mutuel et la dynamique propre au capitalisme. Ça tend à dire, au fond, et je ne le prends pas comme une nouvelle absolument bonne, mais c'est quand même une évolution intéressante, face aux énormes défis qui sont devant nous et où on se sent quand même largement démunis, il y a une prise de conscience de la plupart des acteurs dans nos sociétés, qu'il y a peut-être un rôle pour le bien commun, pour l'intérêt général, à accentuer, voire à développer fortement dès l'abord. Et cela naît de dynamique dans les différents coins, si vous voulez, dans les différentes parties de l'économie. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que tout se rassemble dans un cercle vertueux où tout le monde ressemblera à tout le monde. Les grosses boîtes multinationales comme les associations, non, le graphique a ses limites, il dit les grands pôles d'intérêt, il dit des ressources, il dit une place croissante de l'intérêt général dans certaines structures. Je crois que je suis à ma conclusion. Oui, parce qu'il n'y a pas de conclusion, c'est le titre de la conclusion. Est-ce que ce secteur associatif pèse vraiment? Eh bien, il est de plus en plus important. C'est le deuxième chiffre qui m'importe. Entre 2000 et 2008, près de 40% des nouveaux emplois en Belgique, et c'est la Banque nationale qui dit ça, se créaient dans les ASBL. Donc, l'avenir de l'emploi, il est notamment dans les ASBL, malgré toutes les difficultés qu'on a avec des restrictions de la région, ou que sais-je, ou du fédéral. Ça s'est un peu ralenti, ces croissances, avec la crise économique. Là, ce sont les années de crise, mais sur l'ensemble de la crise et les années qui ont suivi, à nouveau, création nette d'emplois dans les associations. Ici, on est dans les associations uniquement, plus 11% sur 6 ans qui était un peu calamiteux, contre moins 0,3 dans toute l'économie. Et donc, vous voyez à quel point c'est important. Et j'aurais pu prendre le chiffre de 2015, mais les productions de statistiques viennent toujours un peu tard. Mais en Belgique, 334 000 emplois équivalents temps plein dans les ASBL, donc pratiquement 11% de l'emploi salarié total. Et on ne compte pas les écoles libres, parce que bon, la Belgique est ainsi faite que même si elle a des ASBL, on s'en voudrait de traiter de manière trop séparée l'enseignement officiel et l'enseignement libre. Et ça vous concerne, 2/3 de tous ces emplois sont dans la santé et dans l'action sociale. Et ici, de manière prospective, ça veut dire tout simplement, et je suis certain comme économiste de ce que j'avance, l'avenir de l'emploi, bien sûr qu'il est dans les services. On peut essayer de refaire un peu une industrie, je ne suis pas contre l'idée, loin de là, mais l'avenir de l'emploi, c'est dans les services. Bien sûr, dans les services marchands, mais il ne faut pas attendre tout. Ne demandez pas aux banques d'avoir des créations nettes d'emplois. Les services sont marchands, mais que de fermetures d'agences. Dans les services non semi-marchands, là, il y a aussi beaucoup d'avenir. Et bien sûr, il y en a encore, à condition d'inventer des formules originales qui permettent au pouvoir public de croire que les initiatives associatives sont plus performantes que d'autres modalités. Il faut encore des services non marchands à financement public très dominant. Et bien sûr que le non marchand a sa place et la place noble que je vous disais. Mais ce n'est pas seulement une question philosophique, c'est une question économique. Et en enseignant dans une business school, les étudiants sont souvent un peu surpris quand on leur assène les trois vérités, les trois constats suivants. Le non marchand contribue fortement au dynamisme de la partie marchande de l'économie. Parce que les salaires du non-marchand, les vôtres comme le mien, se transforment pour l'essentiel en achats de biens de consommation et autres. Je ne crois pas qu'il y a une grande partie de vos salaires qui sont aux îles Bermudes sans s'investir ou sans acheter rien chez nous. Les investissements du non-marchand, toutes les constructions, que sais-je, en tout genre, tout cela s'achète aussi pour l'essentiel en Belgique auprès d'entreprises commerciales et parfois aussi auprès de sociétés commerciales étrangères. Et puis, ce qu'on oublie souvent, c'est que le non-marchand, il prend sur lui toute une série de coûts que le secteur marchand aurait dû payer lui-même s'il n'y avait pas de non-marchand. L'exemple que je prends souvent, c'est la Gécamines, l'Union minière du Haut-Katanga, quand les Belges ont été chercher le cuivre au Congo. Ben, ils ont fait des trous, ils ont pris le cuivre, mais les travailleurs, il fallait qu'ils puissent lire ou en tout cas comprendre certaines choses. On a créé une école, et dans la région, beaucoup ont été à l'école de la multinationale. À l'époque, c'était la Société Générale de Belgique, les terrains de sport, les hôpitaux. Tout ça, ça a été construit par l'entreprise multinationale parce qu'il n'y avait rien. Eh bien, chez nous, les grandes entreprises ont la chance de pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée, sur non seulement qualifiée, mais qui connaît énormément de choses aujourd'hui avant d'entrer dans l'entreprise. Donc on rend, à travers le non-marchand, les entreprises capitalistes très compétitives. Ce n'est pas pour rien que notre pays, comme d'autres, attire. Et donc, je conclue sur ce point, et s'il y avait une seule phrase que vous pourriez retenir, ce serait peut-être celle-là. Le non-marchand fait marcher le marchand, autant que le marchand fait marcher le non-marchand. Il y a, ne soyez plus jamais timide ou en retenue parce que vous travaillez dans non-marchand, le non-marchand fait marcher le marchand, autant que le marchand fait marcher le non-marchand. Et j'ajouterai à ça qu'en plus, dans ce non-marchand, on est toujours de plein pied avec la question du sens. La preuve, c'est que le bénévolat, il est complètement dans le non-marchand. Vous connaissez beaucoup de volontaires chez Fortis, BNP, pardon. Vous en connaissez beaucoup à la SNCB? Pas beaucoup non plus, hein. Non. Tous les volontaires, à quelques exceptions près des émissions télévis, tous les volontaires vont vers le non-marchand. Pourquoi? Pourtant, ils ne sont pas payés. Eh bien, parce qu'ils sont payés autrement dans le non-marchand. Ils sont payés en sens. Beaucoup de volontaires me disent, ce travail-là de volontaire, X heures, semaine ou mois, je le fais parce qu'il contribue à donner du sens à ma vie. Bon, d'autres choses aussi, il me réintègre dans des circuits sociaux, il peut même m'aider peut-être un jour à trouver un emploi. Mais fondamentalement, le bénévole trouve du sens à son activité. Et il faut prendre le bénévolat comme une sorte de jauge. Si, alors bien sûr, les bénévoles ne peuvent pas tout faire, hein, surtout dans le domaine de la santé notamment, mais la présence de bénévoles signifie que l'activité génère du sens et assez de sens que pour le payer à la place d'un salaire, payer le bénévole de cette manière. Quand les choses tournent mal, parce qu'il y a, il peut y avoir des scandales, tout ce qu'on veut, ou de la mauvaise gestion dans des ASBL, les volontaires partent sur la pointe des pieds et c'est un signal plus fort que la bourse que l'entreprise non marchande peut-être dysfonctionne un peu. Donc, le non marchand, l'associatif, l'économie sociale, des zones où les questions de sens sont premières. Et moi, je peux témoigner du fait que les jeunes d'aujourd'hui, y compris dans une business school, ils sont très pragmatiques. Ce n'est pas des idéologies qui les meuvent. Ils sont très pragmatiques, mais ils veulent plus de sens à leur travail. Et pas mal d'entre eux vont, après un temps dans le secteur marchand, vers le secteur non marchand. Je vous remercie.
Merci, monsieur de Fourny, pour ce tour d'horizon de l'économie non marchande, l'économie sociale, non-profit, ça dépend comment on l'appelle. Je crois que c'était vraiment un tour d'horizon assez exhaustif. Est-ce que quelqu'un a une question, justement, par rapport à l'insertion des personnes handicapées ou cérébro-lésées dans cette économie?
On parlait tantôt des entreprises de travail adapté. Est-ce que vous avez observé que leur fonctionnement change avec le temps? Je veux dire, il y a maintenant de plus en plus une recherche de rentabilité et donc ils prennent moins en compte le travail d'insertion quelque part. Est-ce que vous avez pu observer ça? Parce que nous, on le constate sur le terrain.
Oui, bien sûr. Donc, dans les ETA, il y a 15-20 ans, il y avait 40% de ressources marchandes. Si on globalise le secteur, vous savez qu'une ETA n'est pas une autre, mais globalement, il y avait 40% de ressources marchandes. Aujourd'hui, il y en a 60%. Et vous savez bien que la WIP, enfin la VIC, maintenant, a quand même tendance à réduire une série de subsides. Tout le budget public est contraint de multiples manières. Et ce qui touche particulièrement dans le cas des ETA, c'est que, évidemment, il y a cette réalité qui oblige à aller plus vers le marché, mais ça se traduit, même si les dirigeants ne l'avouent pas facilement, ça peut se traduire par la mise à pied des travailleurs les moins qualifiés. Et là, évidemment, on perd en partie la mission essentielle des ETA. Mais je m'en voudrais de jeter la pierre aux dirigeants parce que les modèles économiques sont de plus en plus contraints. Mais est-ce que, l'hypothèse, est-ce qu'à un moment donné, les ETA seraient tellement sélectives au niveau profil des travailleurs qu'il y aura place pour de nouveaux ateliers protégés avec des personnes plus durement handicapées, mais qui auraient davantage de ressources non marchandes? Ce serait triste d'en arriver là. Mais oui, bien sûr, on risque l'exclusion. Mais l'histoire montre que quand des formules... Les ETA, c'est une belle histoire, hein, globalement. Je trouve, depuis les années 60, les parents qui ont créé les premiers ateliers protégés, informels, puis tout ça reconnu de mieux en mieux. Il y a beaucoup de pays qui nous envient pour les ETA. Et donc, je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est aujourd'hui encore des structures remarquables. Chez les Flamands, ils ont beaucoup plus fusionné. C'est d'énormes ETA avec 500 000 personnes. Chez nous, les structures gardent une taille un peu plus humaine, mais on voit des concentrations. Je voulais dire que lorsque des formules s'institutionnalisent fortement, peut-être que c'est la loi ou la subsidiation publique qui leur impose de se focaliser sur tel type de public. Et alors, il y a des vides qui se créent. Et l'initiative associative souvent revient alors d'une forme ou d'une autre. Mais je ne la souhaite pas, mais je pense que ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. D'autres questions ?
Dans le cas des personnes qui ont une lésion cérébrale, souvent elles ont eu un passé professionnel aussi, et on voit aussi toute la difficulté parfois de faire le deuil dans la considération qu'elles peuvent avoir. Elles se sentent parfois encore capables de faire le même travail, alors que dans les faits ce n'est pas le cas. Par contre, elles sont en recherche d'utilité sociale. Et c'est vrai que par rapport à la réaction du monsieur ici, de ce que monsieur a dit avant, mais on sait que les ETA pouvaient, en termes de sens, offrir quelque chose, mais qu'elles n'ont plus nécessairement les compétences que pouvaient être payées. Dans ce cadre-là, je ne pensais pas que la formule type les aides en France pouvait être une alternative, justement, parce qu'il y a quand même un sentiment d'utilité et de soutien par rapport à une activité qui est une activité professionnelle, tout en restant dans quelque chose qui est plus modulaire.
Oui, vous allez dans le sens que j'évoquais, hein. C'est-à-dire que si les ETA ne sont pas capables d'accueillir ces personnes qui ont eu un passé professionnel parfois même brillant, hein, et qui, j'ai lu l'une ou deux publications de ressort, je suis très impressionné par ces analyses, et en effet des personnes qui croient avoir gardé l'essentiel de leur capacité, et puis auxquelles il faut progressivement faire prendre conscience que ça ne sera jamais tout à fait comme avant. Il y a peut-être des formules comme les ESAT en France, mais vous aurez un spécialiste tout à l'heure qui pourrait évoquer. En tout cas, il faudrait, si ce n'est pas des types d'initiatives nouvelles, que la VIC décide de considérer qu'une partie des ETA doit rester branchée à 70% ou à 80% sur des publics sensiblement fragilisés, mais avec des capacités, comme vous dites, qui ouvrent à certaines modulations, et ne pas avoir un seul modèle d'ETA où tout le monde serait invité à passer à une domination de recettes marchandes, ce qui élimine évidemment ou empêche d'entrer certaines personnes. Il y a probablement de l'entrepreneuriat social à inventer autour de vos structures pour des personnes qui ont ces capacités et en même temps ces fragilités particulières.